Avant toute chose, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers collègues, l'intitulé de l'intervention est un petit peu plus modeste désormais, puisque j'ai enlevé le petit sous-titre qui me paraissait un petit peu trop ambitieux. Je me contenterai donc de vous parler de la place du discernement dans la détermination de la responsabilité pénale, sans aborder cette question très délicate de la distinction entre imputabilité et culpabilité. Donc, j'ai, comme vous le pouvez le constater, aujourd'hui l'honneur de vous présenter une communication sur un sujet que je sais quelque peu technique, mais qui revêt une très grande importance, du moins je le crois, pour l'histoire de la responsabilité pénale. Il s'agit, vous l'avez entendu, de la place du discernement dans la détermination de la responsabilité à partir de la Révolution. Le discernement étant, vous le savez, la faculté dont dispose chaque individu pour distinguer le bien et le mal. À considérer les codes pénaux de 1791 et de 1810, il n'est pas forcément aisé de déterminer d'emblée la place du discernement dans la théorie de l'infraction. Alors, je vous pose l'alternative et je vais détailler un petit peu. L'alternative est simple. S'agit-il d'une notion étroitement liée à la moralité de l'acte, ou au contraire, doit-elle impérativement en être détachée ? Je m'explique. Pour bien comprendre cette alternative, il faut se rappeler que classiquement, on considère que l'infraction pénale est composée de deux éléments, un élément matériel et un élément moral. Et il faut que chacun de ces éléments soit pleinement caractérisé pour que l'infraction soit constituée. Pour ce qui concerne spécifiquement l'élément moral, celui-ci comprend, et personne ne le conteste, au moins ce qu'on appelle la volonté criminelle. C'est assez simple à comprendre, il faut que le criminel ait eu la volonté de commettre l'acte pour que l'on puisse lui reprocher. C'est la base. La question qui nous préoccupe aujourd'hui est de savoir si la conscience criminelle à laquelle renvoie le discernement est ou non une composante de l'élément moral de l'infraction. Et en fonction de la solution retenue, les conséquences en matière de responsabilité pénale peuvent être diamétralement opposées. Au regard des textes adoptés depuis le début de la Révolution, le législateur adopte manifestement pour la première solution, c'est-à-dire que pour lui, le discernement est une composante de l'élément moral de l'infraction, ce qui implique, par exemple, qu'un agent non discernant ne peut pas engager sa responsabilité pénale. Si l'infraction n'existe pas, on ne peut pas engager la responsabilité. C'est ce que nous verrons dans un premier temps. Cependant, il importe, en ce domaine comme dans bien d'autres, d'opérer une distinction entre la théorie et la pratique, d'opérer une distinction entre les prescriptions légales et la pratique jurisprudentielle. Car il est vrai que si par principe les juridictions adoptent des solutions tout à fait conformes à la législation pénale, il peut quand même leur arriver de s'en écarter ponctuellement en refusant de tirer toutes les conséquences de la notion de discernement sur le plan de la responsabilité pénale. C'est ce que nous verrons dans un second temps. Voyons d'abord, dans un premier temps, l'état de la question sur un plan strictement légal. Tout d'abord, sous l'empire du code criminel révolutionnaire, celui de 1791, la nature juridique du discernement, ainsi que ses conséquences sur la responsabilité pénale, peuvent être appréhendées à l'aune des articles relatifs au statut juridique des mineurs non discernants, le tout éclairé par les dispositions du décret interprétatif des 16 et 29 septembre 1791. Je ne vais pas entrer dans le détail de la confrontation de ces textes. Retenons simplement que les députés de la Constituante conçoivent effectivement la conscience criminelle comme étant une notion étroitement liée à la moralité de l'action, étroitement liée à l'élément moral de l'infraction. Par conséquent, dans ce système, le défaut de discernement supprime l'existence même de l'infraction, ce qui implique par exemple que le criminel non discernant doit nécessairement être acquitté, puisque, je l'avais déjà dit tout à l'heure, aucune infraction ne peut lui être reprochée. Cette solution apparaît encore plus nettement sous l'empire de la législation napoléonienne et tout particulièrement dans le code pénal de 1810. Il suffit d'examiner à cet égard les dispositions relatives non seulement à la minorité pénale, mais également à l'insanité d'esprit. En premier lieu, l'article 66 du code pénal prévoit, je cite, que lorsque l'accusé aura moins de 16 ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté. Dans le système du code pénal de 1810, l'acquittement est étroitement lié à l'absence de constitution même de l'infraction. Par conséquent, on devine aisément que que si l'on acquitte purement et simplement un mineur pour défaut de discernement, c'est bel et bien que le discernement impacte directement l'existence même de l'infraction. L'article 64 relatif à la sanité d'esprit, quant à lui, est encore plus explicite, puisqu'il dit, je le cite, « Il n'y a ni crime, ni délit, on ne peut pas faire plus clair, ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. » Donc, pour le législateur napoléonien, le défaut de discernement constitue un obstacle dirimant à l'existence même de l'infraction chez les insensés. Dès lors, il est évident que le discernement doit être incorporé parmi les éléments constitutifs de l'infraction. Alors, cette analyse est amplement confirmée par la doctrine, mais elle l'est également par les rapporteurs du Code eux-mêmes. Par exemple, lorsque Louis-Joseph Faure commente les dispositions de cet article 64 relatif à la sanité d'esprit en février 1810 devant le corps législatif, il explique que le crime ne peut exister que si l'agent a eu la volonté de le commettre avec un minimum de discernement. Je le cite, « Tout crime ou délit se compose du fait, élément matériel, et de l'intention, élément moral. Or, précise-t-il, en l'absence de discernement, aucune intention criminelle ne peut avoir existé, puisque le prévenu ne jouissait pas de ses qualités morales. » En somme, si l'on se focalise sur les textes légaux, qui seront applicables pour la plupart jusqu'à la refonte du Code pénal en 1992, la nature juridique du discernement est assez facile à déterminer. C'est une notion étroitement liée à la moralité de l'acte, avec toutes les conséquences qui devraient en découler en matière de responsabilité pénale. Sauf que, vous l'avez compris, la pratique est loin d'être aussi simple. Alors, je le reconnais, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de véritable difficulté. Qu'elle soit locale ou nationale, la jurisprudence reste assez fidèle à l'appréhension légale de la notion de discernement, dans la mesure où elle en tire globalement toutes les conséquences. Deux exemples. Les juridictions prononcent toujours l'acquittement pur et simple du criminel lorsqu'elles considèrent que celui-ci ne disposait pas de suffisamment de discernement. Ou, un peu plus technique, deuxième exemple, elles s'accordent pour considérer que les acquittements pour défaut de discernement n'exposent jamais l'agent aux peines de la récidive, puisque le défaut de discernement empêche l'existence même d'un premier crime. Cependant, il arrive parfois que l'incorporation du discernement parmi les composantes de l'élément moral de l'infraction suscite certaines difficultés sur un plan pratique. On va prendre un exemple. Selon ce système, il est impossible de punir les complices d'un insensé ou d'un mineur non discernant, puisqu'il n'y a pas de fait principal punissable. Vous ne pouvez pas vous rendre complice d'une infraction qui n'existe pas. C'est ainsi que certaines juridictions du fond, et surtout la Cour de cassation, vont, à certaines occasions, s'émanciper du principe de l'égalité, tout simplement. Alors, je vous propose de développer un petit peu cet exemple de la répression du complice d'un individu non discernant, sous l'empire, je précise, du Code pénal de 1810, parce que ce code révolutionnaire, c'est un petit peu plus complexe. Au terme de l'article 59 du Code pénal de 1810, je le cite, « Les complices d'un crime ou d'un délit, il faut donc qu'il existe, qu'il soit constitué, seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. » Le législateur conditionne donc la responsabilité du complice à l'existence d'un fait principal punissable, qui peut consister, on le voit en jurisprudence, soit en une infraction consommée, soit en une infraction tentée. Or, je vous l'ai dit, si l'on considère que le défaut de discernement annihile toute intention criminelle et partant supprime l'existence même de l'infraction, c'est le système légal, alors il n'y a pas de complicité punissable, ce qui fait que les complices d'un individu non discernant ne devraient pas être inquiétés, ils bénéficient finalement de la plus totale impunité. Mais, vous l'avez compris, certaines juridictions ne sont absolument pas de cet avis. Tel est le cas, par exemple, on va prendre un exemple un peu local, qui me rappelle mes racines, de la Cour de justice criminelle du Nord, dans l'affaire Aimé-Ernestine Surmont. Alors, nous sommes à la fin de l'automne 1806, et Martial Surmont, un maçon résidant dans le petit village de Wambrechy, est pour le moins perplexe, puisque cela fait déjà quelques jours que des écus disparaissent régulièrement du coffret rangé dans sa garde-robe, mais il a beau chercher, il n'a constaté aucune trace d'effraction. Et puis, il finit par porter ses soupçons sur sa propre fille, âgée de 12 ans. Et il décide de vérifier si son intuition est juste. Et il dépose sur une table située au centre de la pièce principale la somme de 50 sols, fruit d'une journée de labeur. Puis il referme soigneusement la porte à clé. Le lendemain matin, de retour chez lui, il constate qu'une partie de la somme a disparu et, évidemment, la porte n'a pas été forcée. Il doit donc se rendre à l'évidence, seule sa fille a pu commettre ce vol, et assurément, croit-il, elle ne peut l'avoir perpétré que sur les conseils de quelqu'un. Il la fait alors venir, lui reproche amèrement son méfait, et, évidemment, un moyen de coercition normal, menace de l'enfermer dans la cave pendant 3 jours. L'enfant, qui a quand même conscience de son intérêt, finit par reconnaître son geste, mais elle ajoute, je la cite, qu'elle ne s'était portée à cette bassesse que sur les conseils de Ruffine Cornil, sa voisine. Que c'était cette femme qui lui procurait un clou plié en forme de crochet toutes les fois qu'elle voulait qu'elle lui vole de l'argent. Que c'était, à l'aide de ce clou ou crochet, qu'elle parvenait à ouvrir la porte de la garde-robe. Bon. Sur ce, Martial Surmont se rend aussitôt devant l'officier de police local et lui expose toute l'affaire. Et finalement, la fillette ainsi que la voisine se retrouvent toutes les deux devant la cour de justice criminelle de Douai. Devant cette juridiction, la fillette est reconnue coupable, de vol d'argent monnayé au moyen d'une fausse clé. Mais les juges considèrent qu'elle a agi sans discernement, si bien qu'elle est acquittée. Qu'en est-il du sort de la voisine, qui est également déférée devant cette juridiction ? En bonne logique, normalement, elle doit s'en tirer à très bon compte, puisque le défaut de discernement, je vous l'ai dit, empêche l'existence même d'un fait principal punissable. Mais vous l'avez deviné, il n'en est absolument rien. Bien au contraire, elle ne bénéficie d'aucune sorte de clémence, puisque les juges nordistes la reconnaissent coupable, je cite, « d'avoir, par promesse, provoqué Aimé-Ernestine Surmont à commettre le crime » et d'avoir fourni à ladite Surmont les instruments qui ont servi à l'exécution de ce crime, fin de citation, raison pour laquelle elle est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Il s'agit donc d'une décision rendue non pas en droit, mais en équité. Alors, je vous rassure, la Cour de cassation n'est absolument pas en reste, simplement, elle aura le mérite de tenter de justifier cette solution sur le plan juridique. C'est ce que nous allons voir avec l'affaire Bourselet, qui est un petit peu plus courte, je vous rassure. Nous sommes à la fin, cette fois-ci, du mois d'octobre 1836, et une jeune fille mineure, encore une fois, les enfants ne me quittent pas, se rend coupable d'un vol domestique, crime pour lequel elle est finalement acquittée par la cour d'assises de la Seine, au motif, encore une fois, c'est comme dans l'affaire précédente, qu'elle ne disposait pas au moment des faits du discernement nécessaire. La juridiction parisienne, en même temps, condamne Victor Bourselet du chef de complicité, puisque celui-ci avait recelé les biens volés. La cour de cassation est saisie par M. Bourselet, et la cour régulatrice confirme le raisonnement des juges du fond, tout en relevant, je la cite, que l'acquittement de la fille Morisot comme ayant agi sans discernement ne forme qu'une exception personnelle à l'auteur du fait principal déclaré constant par le jury et ne diminue, par conséquent, en rien la culpabilité du complice par recelé. Bref, à l'occasion de cette affaire, la Cour de cassation va adopter une vision du discernement radicalement différente de sa perception habituelle. Pour elle, le discernement ne doit pas être considéré comme une composante de l'élément moral de l'infraction, dans la mesure où la jeune fille n'est pas acquittée, mais absoute, en raison d'une circonstance qui lui est propre. L'infraction reste, mais on ne peut pas l'imputer. Mais comme l'infraction reste, les complices sont punissables. Alors, il va de soi que ce raisonnement, vous l'avez compris, est tout à fait séduisant. Il est même très beau sur le plan de l'équité, mais il se heurte frontalement aux dispositions du Code pénal, et plus particulièrement à celles que je vous ai énoncées tout à l'heure, articles 64 et 66 du Code pénal relatifs à la minorité pénale et à la sanité d'esprit. Pourtant, j'insiste, il est justifié sur le plan de l'équité, puisqu'il permet, en l'occurrence, d'éviter l'impunité des criminels qui, pour couvrir leurs méfaits, les font accomplir par des enfants. Et la légitimité de cette solution est telle que jamais la Cour de cassation, encore aujourd'hui, hein, plus ou moins, hein, sous des manières un petit peu plus déguisées peut-être, jamais la Cour de cassation ne variera sa jurisprudence. En conclusion, depuis le début de la Révolution, la nature juridique du discernement est clairement définie par le Code pénal, enfin jusqu'en 92 du moins. Il s'agit d'une notion étroitement liée à la moralité de l'action, avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan de la responsabilité. Cependant, vous l'avez compris, la jurisprudence, quant à elle, est beaucoup plus ambivalente, puisqu'elle ne tire pas toujours toutes les conséquences de cette notion de discernement sur le plan de la responsabilité. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure me semble révélateur. Les juridictions procèdent à l'acquittement systématique des très jeunes enfants et des fous, dans le plus grand respect des prescriptions légales, et en même temps, elle poursuit et condamne, avec la même régularité, les complices de ces derniers. S'affranchissant donc, c'est intéressant pour la Cour de cassation, du principe de l'égalité. Ce faisant, elle contribue à semer le doute quant à la place du discernement dans la détermination de la responsabilité pénale, doute qui subsiste encore aujourd'hui. Je vous remercie.